dans le trou.
Son negociam, ot veninta del cor, porque canto la flor, flor de la intervinter ni esperan. Y la chin venuce mi, aura grec, aura franca, y canto con mi, persa ma voce, ed iranta del cor, esperan.
Arco. Bo. Bo. Boto. Chocolate. Do. Do. Dento. E. E. Elefanto. Fo. Fo. Fisho. Go.
Des prunes ou quelques monuments, que les marchands soient contents et qu'on chope la peste brune. Faudra se débarrasser de ces cliques et s'inventer des pacifiques où on déposera nos mâles. Sur ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles. Sur ces plages où certains jours on aura tant dansé l'amour que ça fera rire les étoiles.
Yes. Donc, salut ton al chiu, qui est Eblen Kiaou, salut. Yes?
Yes, salut ton. Yes.
Yes, Yen Kiaou, Eblen, salut ton al Uber, qui est à scène tchekio, qui est Eblen Ousculta Asnin, inestias, donc. Yen, do estas nia lasta elsendo antaŭ la renkontiĝo de Saint-Imier, kaj tiam eble ni parolos laŭ mi pri du aferoj, unu e tiu kurso pri Esperanto kiu finiĝas nun, sed ne estas multo por diri, kaj ankaŭ eble ni parolos pri komunumo, ĉar fakte la komunumo de Parizo estis la komenco, ni povas diri, de la fino de la Comune de Paris, on peut dire, estis la comenzo de tiu renkontiĝo de Saint-Imier, pro tio, que la La fino de la uno internet sio, esista uno internet sio, qui ou facte forigis, Bakunin, kai James Guillaume, kai protio, casis la uno internet sio contra autoritat, non? Eble ni havos occasion paroli pritio. Dopre Esperanto, mi credas que Guy désiras paroli pri Georges Kersoudi, hein? C'est mi bonne. C'est bonne compréhension. Qu'est-ce qu'il pose ces doigts et bien il omettait parole au esprit prétendu rencontige des sentiments qui est astu contre ou autorité taille rencontige. Donc salut à notre chien.
Yes, donc facté donc mi malbonné à las min, yes min ici là c'est bien à casco. Ça se malbonné connectique là c'est de yes, ça se io qui genas min. Ne gravas, mi parolos la garantio, yes, ni vidos, ĉu tio estas ĉu tio fakte bone funkcios, yes, ĝis la fino, yes. Do, jen Radio Esperanto, yes, saluton Volito,
saluton
Uber promenas, yes, mi esperas tion, yes, kaj do Radio Esperanto kiel kutime iom da malfruo mi havas kutime, yes, sed ni preparis kelkajn aferojn por vi, kompreneble.
Peut-être pour traduire en français, en fait, on a...
Oui, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui...
Ah.
J'ai pas tout dans les oreilles, voilà, c'est pour ça que ouais, je doute de.
Mais là, tu m'entends ou pas, non? Tu
as. Passage du son. Yes, yes, yes. Mi bonne odas tian vochon, amenao. Tian vochon, c'est de mian.
Ah, d'où?
Mian, yes. Yes, c'est de mi un cao préparis, et blé char, mi préparis la perron pour paroli à Punzi, yes. Car mi estas tiel malproxime de tsi, que do tio genas min por
ni
nur du faru tiun elsendon, yes.
Bon, donc ce qu'on...
Mi chatas labori, yes, en pli da conforto, yes.
Ah, yes, compris.
Voilà, donc on n'est pas dans le confort, là, c'est pour ça que c'est... On a l'impression qu'on n'a pas encore vraiment démarré. Mais ne vous faites pas, et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses. Tu parlais de Kersoudi, effectivement, j'ai remis une petite brochure très fine, hein, de
André Charpillot.
André Charpillot, hein, oui, sur Kersoudi, très fine, mais très, très pointue, hein, sur la manière dont il jugeait Georges Kersoudi et son savoir, voilà, comment il présentait son savoir et l'étendue de son savoir.
Oui, c'est ça. Quelqu'un d'à la fois modeste et très, voilà. Et très savant, quoi.
Et donc, moi, par un peu des tours de passe-passe, on va dire, je cherchais à me rapprocher de toi pour être... que ce soit plus convivial, tu comprends, parce que là,
Mais nous sommes un peu loin.
On se voit loin par la fenêtre. J'ai pas la résonance de ce qu'il doit y avoir. Je ne sais pas si tout est vraiment... je ne sais pas si j'ai la possibilité aussi d'écouter tout ce qui est programmé, puisque j'ai cru entendre malgré tout, malgré qu'on a pris l'antenne, j'ai cru entendre qu'on pouvait être reçu peut-être par des auditeurs, et bien sur ce qui était en train de passer. Voilà. Malgré que j'ai voilà, je me méfie avec l'ordinateur. Hein. On peut très bien sortir de l'émission qui était sur l'ordinateur, donc ce qu'on appelle en bande passante un peu, voilà. Et donc et qui continue à passer malgré qu'on fait l'émission, ça continue à passer en second plan.
Oui, d'accord.
Voilà, et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans mes oreilles.
Oui, donc c'est gênant, quoi.
Oui, que ça tournait et donc ça peut être très très gênant.
Oui, parce qu'en principe, on écoute avec un seul cerveau, quoi, donc,
voilà, oui, donc
si on est obligé de séparer son cerveau en deux...
Surtout, je me suis trouvé très très mal. Dorian, pacté, tamen, ni successos. Mi ros apud si, si vous signez pas ce qui est mi rasen. and la SNDU.
La SNDU même, yes.
Même, yes. Mm. Et la technique apartout, c'est la SNDU pour la éditori, yes, pour paroli, pour débatti. Puis, miros, en ti approximezzo, kaitiel, ni provos tranuile. Vancam, mi ne vidas. Mi dubas che veni a Olas Min, char mi tutte ne vidas iun signon, qui u montras.
Ah!
Yes. Mi ne vidas.
Technique a des problèmes.
Voilà, donc oui, des problèmes techniques, assez important là. Je ne vois pas du tout qu'est-ce qui peut me faire barrage. Qui ou facté.
Peut-être qu'on peut demander à quelqu'un s'il nous entend, quoi.
Mission, c'est de vous mettre à la semaine prochaine, tout simple.
Tu es à cette cesse évoquer Ioun pour Sitch au Niauskult Asnin?
Yes, qui a un petit parole, mais très bonne vidas signon des.
C'est né qui a mis parole.
Ah, qui a mis parole, tout est né.
Ado.
Qui au productation, lui, Meneceas.
Tu veux dire, est-ce qu'il y a un téléphone ou un IO qui est capable de se ritser vite le Sendon?
Non, mais il y a un conci pour faire le Sendon et l'alia loco. Yes.
Bonne.
Si elle m'y espère, ce qui est au niveau de.
Ados.
Yes.
Do. Bon, alors ce qu'on disait en fait, c'est que ce serait notre dernière émission avant les rencontres de Saint-Imier. Hein, et donc, on va en profiter un petit peu pour parler, de l'espéranto. Pourquoi l'espéranto? Les points de vue touristiques, culturels, les raisons pédagogiques, linguistiques, économiques. En quoi l'espéranto peut être intéressant pour la protection des cultures nationales et régionales. Peut-être un petit peu parler de la structure de l'espéranto, voir que c'est une langue artificielle et voir comment ça fonctionne et le rayonnement qu'elle peut avoir. Bon, ça, on va y aller très rapidement. Et par contre, Guy, je pense, veut parler de Georges Kersaudy, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement compétent, extrêmement savant, extrêmement modeste en même temps, quoi, qui s'est éteint en 2015, si je ne me trompe pas, quoi, qui est vraiment une personnalité exceptionnelle. Et puis, évidemment, comme on parle des rencontres de Saint-Imier, eh bien, il faut savoir que ces rencontres de Saint-Imier, donc, les premières rencontres ont eu lieu en 1872, on en a parlé la dernière fois, et donc les rencontres de Saint-Imier en fait sont liées au fait qu'il y a eu un conflit entre la Première Internationale autoritaire et les gens de cette Première Internationale non autoritaire qui ont voulu donc créer cette internationale anti-autoritaire. Et en particulier, il y avait eu l'exclusion de Bakounine et de James Guillaume. Enfin, peut-être qu'on va en parler un peu plus. Bon, c'est pas trop le. On va aller rapidement dessus, quoi. Alors, par quoi on commence, Guy?
Alors. Voilà, donc. Donc, nun mi esperas que mi audas, povas audi mian vocion.
Same
qui elle vit.
Ah, do.
Yes. Bonne. Yes, mi bonne audas mian vocion. Citi, yes. Bonne. Yes, citi. En ordre. Georges Kersaudy, tiou facteli libretto, tiou brochuretto.
André Chapillon.
Bastion. Estis eldonita chez la Blanchetière, yes, char estas la.
Yes, eldonio de.
Eldonio, de André Chapillon.
Yes, yes, Chapillon.
Il même eldonas. Il même eldonas. Yes, yes. Kai.
Oui, mais pour la solide qui on scribe, André Charpio en sia encyclopédie au prix Esperanto.
Yes.
Nous, quelqu'un est venu.
Yes.
Georges Kersaudi, donc Georges Kersaudi, qui on a scrit juste en 1912, qui a malapéri en 2000 d'Egvin, qui est extraordinaire à polyglotto. Treyoun a li éclair nis plurining voin latinidain, qui est germanain. En 1936, il lernis Esperanton, kai constatis que la scio de tiu lingvo malfermas privilegian aliron al la etnolingvoi. De 1941 gis 1946, li studis en la Sorbonne germanan lingvon, usonan lingvon, kai civilizacion, scandinavan lingvon, scandinavan, plural, scandinavan lingvon, kai literaturoin, kai rumanan filologion. Sam epoche, ce la nazia lerneio pri la vivantai orientai lingvoi, li estis diplomita pri la lingvoi russa, rumana, hungara, fina, kai akiris bonan konon de quindeco de aliei lingvoi precise quindexes. Estas absolute incredible. Mi supposas che li lernis en... Inalco,
c'est
un thème après Inalco.
Yes.
Et Claborinte, c'est la France, ministerio de la Exterlanda Aferoi, li poste farigis traducisto, c'est la Unuiginta Nazioi, qui c'est la Consilio de la Europa Unio. Li plenumis officoin en diversae chef urboi sur quvar continentoi, partoprenante ancao en missioi en la tuta mondo, qui agante. Qui est officiel à fac traducisto chez la appellatia Cortumo de Paris. Li estas autoro de Langues sans frontières, Li estas autoro de Langues sans frontières à la découverte des langues de l'Europe. Lingvoi sen limoi, el couvre el la Europa e lingvoi en 2001. Tiu libro estas vere belega libro qui estas en la revue Autrement.
Yes.
Mm-hmm. Mi havas ĝin ĉi tie.
Ah, yes, yes, yes. C'est grand de libro kaj bela.
Interesega, interesega. Do tiu libro entenas kompreneble eksterordinaran sumon da informoj pri la eŭropaj lingvoj kaj ankaŭ pri Esperanto. Ĉu eble traduki tion aŭ en franca lingvo? Rapide, almenaux.
Yes, rapide.
Donc, Georges Kersaudi, 1921-2015, donc est un polyglotte extraordinaire. Très jeune, il a appris plusieurs langues d'origine latine et germanique. En 1936, il a appris l'espéranto et il a constaté que la connaissance de cette langue ouvrait une capacité, en fait, à aborder les autres langues, enfin, les autres langues, quoi. Enfin, je traduis rapidement. De 1941 à 1946, donc, il a étudié à la Sorbonne les langues, donc l'allemand, la langue anglaise, qui est la civilisation, les langues scandinaves et leur littérature, la philologie roumaine. À cette même époque, donc, l'école nationale pour les langues orientales vivantes, je pense qu'il s'agit de l'INALCO, hein, c'est donc ça. Mmh, donc, il a été diplômé des langues russes, roumaines, hongroises, finnoise, on pourrait dire finnoise.
D'ailleurs,
les langues hongroises et finnoises sont assez proches, en fait. Ce sont des langues finno-ougriennes, comme on dit. Hein,
voilà. Finno-ougriennes, voilà.
Et il a acquis, une bonne connaissance d'une cinquantaine d'autres langues, exactement 56 langues. Non, mais c'est absolument délirant, quoi. Alors, comme il a travaillé, donc... au ministère français des Affaires étrangères. Il est devenu donc traducteur au niveau des Nations Unies, hein, pour les Nations Unies, et sur le conseil au conseil de l'Union européenne. Donc il a rempli plusieurs plusieurs offices, plusieurs fonctions dans différentes capitales sur quatre continents, participant à des missions dans toute la Terre, hein, et agissant comme un traducteur officiel, particulièrement compétent, hein,
oui, oui.
Auprès de la cour d'appel de Paris. Il est l'auteur de Langue sans frontières, donc Langue sans frontières, je ne sais pas si on peut toujours la voir aujourd'hui, c'est un ouvrage absolument magnifique qui est aux éditions Outremont, donc ça c'était en 2001, donc Langue sans frontières à la découverte des langues de l'Europe. Langue sans frontières, il s'agit des langues européennes, donc ce livre contient une somme absolument extraordinaire d'informations à propos des langues européennes et également au sujet de l'espéranto. D'ailleurs, à l'intérieur de ce livre, comme Kerso dit, il croit peut-être que tout le monde lui ressemble, ce qui n'est pas le cas, hein, mais il pense qu'en fait, avec une heure d'enseignement de l'espéranto, on peut réussir à comprendre un texte qu'il propose après, quoi. Et d'ailleurs, il y a même un moment où il dit plus on passe de temps à apprendre une langue et moins on en sait, parce qu'il dit lui il est tout, enfin il a un cerveau,
oui, là,
c'est absolument incroyable, quoi.
C'est difficile là,
oui, mais... oui, c'est vraiment extraordinaire. À toi, Guy.
Donc, Miai Memorajoy, prix Georges Kersaudi, sa chère Pio, hein, qui vous,
oui,
qui vous vercasse, qui vous scriba senti ou caso. Okay. Donc, mine suffice conis tiun externorman homon, cae precipe mi conis lin tro malfrue.
Yes.
La degvin d'excessan de marto 2002. Unu monaton pli antaue li festis sian ogdec unuan nascigiaron. La esperantista gazetaro longue citadis lin ocase de la tutte frecha apero delia dica libro Langue sans frontières, Lingvoi sen limoi. Prix quiu mi iom recensos pli poste. Tiun tagon, la Esperantista Asocio Satami Caro inauguris sian novan sidejon ĉe la 134 Boulevardo Vincent Auriol. Kaj mi estis invitita ĉe esti. Ankaŭ Georges Kersaudi ĉe estis. Yes, estas yes, estas stranga, ĉar ankaŭ estas dio tio provokas certe memorojn al Juliette.
Ah, yes, compris.
Ternop, ĉar ankaŭ mi ĉe estis. Kaj yes, por tiu momento, do ĝuste mi ĉe estis.
Yes,
la degvinan dum du tagoj, la degvinan kaj deksesan de marto 2002. Kaj fakte li venis laŭ mi du foje, du posttagmezoj, kaj mi estis mi kiu ŝoforis lin.
Ŝoforis lin, yes.
Kiu ŝoforis lin por partopreni al tiu inaŭguro.
Ĉiam li rakontis al vi tiun anekdoton,
kiam
li iris en Indio, et bien raconte tout tien, ça reste à se faire à Mousa Ferro.
Ah, yes, en Indio. Ah, yes. Qui aime les transiris la doganon.
Yes, yes.
On y diris, videvas plenumi la.
Yes, la passe. Yes, la paperon qui
escribit. Paperon pour la.
Qui escribit vienne religion.
Yes.
Qui est comme.
Yes, est-ce ce spazio?
Yes, c'est ce spazio portio qui est.
Qui est
satéiste, qui est ravis religion.
Cet
homme, il insiste, il se
tient. Ah, il insiste, il dirait, n'est-ce pas ces blancs qui venaient à vous
en religion. Qui est fin, qui est onifaris.
à qui on y faris finfine
raconte
ben li même créis
propran
religion yes kai li describis no mi religio la religio de la religio de la cuniclo
estas cuniclo
cuniclo
c'est kai yes tout est contente et cun
yes tout est yes
sans problème
estas
incredible
yes incredible pour ni
pour ni comprendre
yes. Ça c'est amusa. Attends tout, on est des vases ridi, hein, pour
spritio. Ridi spritio.
Pour ridi, yes.
Donc,
bah, je pense à Juliette Ternan que l'on salue, hein,
oui.
Qui nous écoute. Je pense que Juliette doit être notre plus fidèle auditrice. Hein.
Oui, puis en plus, voilà. il a dédicacé ce livre à ma mère, quoi, donc à Juliette. Donc.
Et on y était, nous, à ces dates-là, le 15 et le 16, durant deux jours, on a fait la fête pour l'inauguration du siège.
La Marteau en 2012.
En 2012,
yes.
Oui. C'était l'inauguration du nouveau siège de Satami Caro, voilà.
Ah oui, oui.
Satami Caro venait de quitter Avenue Gambetta.
Oui.
Et puis se retrouver là-bas, donc, dans le 13e arrondissement.
Oui, rue Vincent Auriol.
Ils sont toujours, rue Vincent Auriol, 134-136. Oui, voilà. Et donc, comme j'ai, durant deux jours, je l'ai voyagé pour l'amener le samedi et puis le dimanche, et puis, puisqu'il signait ce livre, justement, entre autres. Hein,
oui, oui.
Voilà. Et donc, sur le périphérique, comme d'habitude, on fait la queue, quoi. On a fait beaucoup la queue et puis tout ça. Et il m'a raconté pas mal de choses et tout. Et donc, en Inde, à un moment, il a fait plusieurs voyages en Inde, mais entre autres, un de ses voyages en Inde, on lui a demandé de remplir les papiers pour passer les frontières et puis tout ça. Donc, et puis, il avait des choses à remplir au niveau de la religion. Et lui, bon, il n'avait pas envie de dire qu'il avait une religion, il en avait pas, donc il fallait qu'il n'avait pas envie d'inventer. Il a compris que ça serait plus emmerdant de détourner la chose que de le faire, et il s'est dit je vais le faire à ma façon, quoi, hein, voilà. Mmh. Et donc il a rempli dans la case religion le lapin, voilà.
Et c'est passé sans aucun problème, quoi.
Et nous, quand il nous a, oui, il a raconté ça à plusieurs aussi, après...
Oui, de toute façon, ils ont bien l'éléphant.
On riait, hein. Oui, ils ont bien
l'éléphant. Ils ont bien Ganesh,
oui.
Hein, donc...
Alors donc, et ça a passé, quoi.
Ah oui, voilà, ça a passé.
Ça a passé, c'était... Oui. C'est...
Alors là, dans le chapitre 23, donc il parle de parce qu'il parle de toutes les langues d'Europe avec tous les alphabets et tout ça. Hein. Il y a quand même 6 alphabets différents, hein. Et uniquement dans les langues d'Europe, hein, et donc dans la solution de la langue internationale, il met en exergue cette citation de Victor Hugo : "L'utopie, c'est la vérité de demain." Hein. Mm-hmm. Chapitre la utopie ou est-ce la vero de morgue.
Mmh.
Et donc bon, après il fait donc tout un joli parole esprit avantage sur les autres langues, etc. Bon, on va pas le faire. Donc, peut-être j'ai quand même envie de lire un texte en espéranto, parce que on va voir si ça marche, les gens qui ont écouté les leçons d'espéranto. Et donc lui il dit au bout d'une heure on peut réussir à comprendre ce texte.
Oui.
Donc il dit à ce poste Eble unu horo laumi li credas que ciu persona estas same inteligenta que li, mi ne credas que estas tiel. C'est donc do jen la texto que un escribas. Mi diros, tu
n'es? Yes.
Simpla, flexebla, vere internet sia in siai elementoi, la lingvo esperanto presentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de lingvo internet sia. Ciao. Tre facile por homoj ne multe instruitaj. Esperanto estas komprenata sen peno de la personoj bone edukitaj. Mil faktoj atestas la meriton praktikan de la nomita lingvo. Eble tiuj kiuj aŭdis niajn lecionojn eble povas kompreni la sencon de tiu. On traduit en français peut-être, c'est assez simple.
Oui, on peut le. Oui.
Donc simple, flexible, vraiment, oui, international dans ses éléments. La langue espéranto présente au monde civilisé l'unique véritable solution d'une langue internationale. Car très facile pour les hommes qui ne sont pas forcément très instruits. L'espéranto est compréhensible sans difficulté, des personnes bien éduquées. Mille faits attestent le mérite pratique de cette langue en question. Mmh. Bon, je pense qu'effectivement, ceux qui ont écouté au moins les 3-4 premières leçons peuvent comprendre ça. Quoi. Voilà. Donc tu veux continuer sur Kersoni peut-être?
Oui, sur la leçon, étant donné qu'on est dans l'heure, il est 18h, 18h07.
On peut. Alors là, je vais noter...
On va parler un petit peu des leçons. Donc, on a fait un rythme de leçons, on en serait à la 16e, hein, c'est ça. Voilà.
Alors, je vais essayer
Les créneaux dont on a disposé, ça ferait qu'on serait à la 16e leçon. Hein.
Voilà. Théoriquement, oui.
Oui.
Voilà ce qu'on avait. Alors là, on ne va pas faire une leçon en tant que telle, mais enfin, on peut quand même faire un petit peu un résumé. Donc, on a fait une présentation succincte de la langue. Alors, pourquoi l'espéranto? Alors, les raisons sont aussi bien humaines que touristiques, culturelles, pédagogiques, linguistiques, économiques ou encore la défense des cultures nationales et régionales. Alors qu'au contraire, lorsqu'on décide de s'en tenir uniquement à l'anglais, c'est plutôt un appauvrissement des langues nationales et régionales. Bon, pour l'espéranto, c'est le contraire. Alors, les raisons humanistes, l'espéranto est une langue, il ne s'agit ni d'une idéologie, ni d'une religion. Et on peut en retrouver chez les espérantistes, évidemment, toutes les idéologies, toutes les religions. On peut quand même constater que... du fait que c'est une langue qui n'appartient à personne, il y a beaucoup d'humanistes chez les espéranto, quoi. Et puis on peut aussi constater qu'en fait, ce qui n'a rien à voir avec l'espéranto en tant que tel, c'est que Zamenhof lui-même était quelqu'un qui était profondément religieux, hein, et donc en particulier, il a même été sioniste à un moment donné, puis à la fin il était idéaliste, et la règle d'or qu'il avait pour cet idéalisme, c'était « ce qui est désagréable ne le fait pas à ton prochain, toute la loi tient en cela ». Bon, on peut pas trop reprocher ça, mais enfin bon, même si l'espéranto n'est qu'une langue, hein, on trouve sans doute évidemment plus d'humanistes chez les espérantistes qu'ailleurs, mais enfin, évidemment, ça n'est qu'une langue et on doit la considérer simplement comme telle, quoi, et se méfier des gens qui peuvent être sectaires, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent être sectaires dans tous les domaines, y compris dans l'espéranto. Hein. Alors, les raisons touristiques et culturelles, on sait que la langue commerciale du tourisme est l'anglais, hein, mais par contre, l'espéranto est beaucoup moins répandu. Toutefois, ça permet un contact direct et authentique avec l'habitant. Alors, il y a toujours existé des clubs espérantistes dans les grandes villes, hein, mais il existe depuis 1974, donc avec le développement d'Internet, il existe ce qu'on appelle la passeporte à cerveau.
Hein, donc, voilà. Oui.
Alors, au moment de sa création, il y avait seulement 39 adresses dans 19 pays. En 2010, il y avait déjà 1450 adresses dans 727 villes de 91 pays. Aujourd'hui, évidemment, c'est encore plus important, quoi. Alors, il suffit de taper sur Internet « passeport à cerveau » et puis vous pouvez tout à fait rentrer là-dedans. Bon, évidemment, la moindre des choses est quand même de parler quand même de baragouiner au moins l'espéranto pour pouvoir s'en servir, quoi. Alors, il existe beaucoup d'autres moyens pour enrichir les contacts, évidemment, tels que les congrès, par exemple, ou les rencontres. Entre parenthèses, au moment de Saint-Imier, on pourrait peut-être essayer, comme tu disais, de réunir tous les gens qui parlent l'espéranto. Hein, on va sans doute en trouver un certain nombre. Mmh. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir aussi faire appel à ces gens pour pouvoir traduire dans les autres langues qui seront parlées à Saint-Imier. Donc, on va peut-être lancer un appel par rapport à ça. Hein, voilà. Alors, ce que dit André Charpillot, donc lui, il dit que Mais évidemment, sur le nombre de personnes quoi, qui parlent espéranto, on ne peut pas savoir, parce qu'on ne peut pas le répertorier, qu'on pourrait le répertorier pour une langue nationale. Il dit que 1000 auraient l'espéranto pour langue maternelle, donc c'est possible. Hein. 10 000 le parleraient couramment, 100 000 pourraient l'utiliser parfaitement, 1 million en connaîtrait les éléments, bien les éléments, on l'aurait déjà étudié. 10 millions l'auraient étudié, donc ça c'est ce que dit le livre Guinness des records, dit qu'il y aurait 6 millions d'espérantistes. Bon, c'est difficile à savoir. Évidemment, il y a les raisons pédagogiques, linguistiques, économiques. Hein. Celui qui apprend l'espéranto, ben, il va apprendre plus facilement d'autres langues, hein, puisqu'il va avoir un système grammatical qui va donc l'aider dans les autres langues. Bon, ça, on a des rapports qui sont faits dessus. Hein. On a le fameux rapport Grain dont nous avions déjà parlé ici. Hein.
Oui, tout à fait.
On va pas forcément traduire ce qu'on dit là, parce que c'est en fait dans le cadre de la leçon. Hein. Donc c'est un économiste suisse auquel ce rapport a été demandé. Donc comme souvent, on demande des rapports aux gens et après on n'en fait rien. Hein.
Donc
on doit sans doute avoir de l'argent en trop à dépenser, je ne sais pas. Et il note qu'en l'Angleterre réalise 17 milliards d'économies par l'usage du tout anglais. Dans les relations européennes, donc là on parle uniquement des relations européennes, et comme toujours, ce sont les moins riches qui paient pour compenser ce que n'ont pas payé les plus riches. Quoi.
Oui.
C'est quand même assez invraisemblable.
Ouais. C'est la force du rapport de François Grain, c'est d'avoir chiffré.
D'avoir chiffré, oui.
Voilà, il a chiffré son étude. Hein. Et c'est pour ça sans doute qu'après il n'y a pas eu d'écho et on ne lui a pas redemandé.
Alors le rapport Grain, on trouve facilement sur Internet, il suffit de taper rapport Grain, on le trouve en entier, donc on ne va pas insister davantage dessus. Hein. Alors sur le plan de la fidélité des traductions, on peut mentionner une très vieille expérience qui avait été faite par un auteur français, Tristan Bernard, à partir d'un texte de Abel Hermant, enfin peu importe, le texte donc avait été traduit en italien, le texte français, hein. Il a été traduit en italien, en espagnol, en anglais, en allemand, en russe et en espéranto. Puis une équipe de 6 autres traducteurs a retraduit le texte en français.
Mm-hmm.
D'accord. Et donc la retraduction en espéranto était identique avec seulement l'addition de 2 nouveaux mots. La traduction d'italien a été presque aussi bonne. En espagnol, il y avait quelques erreurs importantes tout de même, mais elles étaient relativement limitées. Quant aux retraductions en anglais, c'était vraiment très mauvais. En allemand et en russe, c'était très mauvais. Quoi. Voilà. Alors bon, citons simplement Umberto Eco, hein, d'un point de vue linguistique, qui lui, au départ, était défavorable à l'espéranto, hein, qui s'est mis simplement à se dire, quand on parle de quelque chose, ben, autant connaître ce dont on parle. Hein, c'est contrairement aux journalistes de BFM TV, on parle de tout et de n'importe quoi, mais on ne sait pas de quoi on parle. Quoi. Donc lui, il s'est dit, bon, j'ai quand même demandé à un étudiant, à un de mes étudiants, d'apprendre l'espéranto pendant un an. Hein. Et donc, il a fait cette expérience, et donc il arrive à cette conclusion. L'espéranto obéit véritablement à d'admirables principes d'économie et d'efficacité. Bon, ça, on était intervenu aussi dessus pour parler du principe de nécessité de suffisance. Donc, on avait déjà parlé dans une...
Ouais.
Évidemment, bon, la protection des cultures nationales et régionales, hein, bon, l'impérialisme linguistique anglais ne peut que conduire à un globiche de 1000 mots pour les gens ordinaires, hein, au détriment de la diversité des cultures. Et Claude Agege l'exprime ainsi, ce phénomène de perte est dramatique. La langue anglaise est une menace, pas seulement pour les langues, mais aussi pour les cultures, hein, évidemment.
Mm-hmm.
Langue, culture, les deux sont liés. Hein, et André Charpillot donc, ajoute, et là, c'est même, on peut dire, il ajoute ça quasiment au profit de l'anglais, hein, enfin, pour valoriser l'anglais. Même la civilisation anglaise ne résistera pas à ce tsunami culturel, car la langue imposée à toutes les planètes, la planète n'est pas la langue de Shakespeare, mais un jargon étranger à toute culture, seulement capable d'exprimer des arrangements commerciaux. Donc effectivement, on est... André Charpieu, quand il parle, il n'a pas trop tendance à se gratter, quoi, mais bon, il dit ce qu'il a à dire. Quoi. Alors, quant à la structure...
Mais Claude Agege, au début, il était aussi contre l'espéranto.
Mais il était aussi contre l'espéranto, hein. Puis
contre
après...
Contre l'espéranto, surtout quand il a vu effectivement, comme tu l'as expliqué...
Oui, oui.
Umberto Eco, il a... Il a mis un de ses élèves sur le coup, hein.
Absolument.
Sur le coup, et c'est lui qui a fait d'ailleurs le qui a exposé son travail au Collège de France, hein.
Tout à fait.
Et donc, Claude Agege, il a, à partir de ce moment-là, il a commencé à,
oui, bah, à tourner
un peu les talons, et puis à...
Bah, c'est ça. D'ailleurs, en fait, Claude Agege, si tu veux, est devenu favorable à l'espéranto, même pas par rapport à la capacité de communiquer avec toutes les personnes du monde. C'est vraiment pour des raisons linguistiques, lui. C'est vraiment pour... Voilà, il s'est rendu compte... on démonte le phénomène linguistique et ça permet, en fait, d'avancer dans les autres langues, quoi. C'est même pas... Donc, c'est pas pour la passeporte à serbe qu'il est intéressé.
Il a dit que c'est la langue la mieux faite au monde, il a dit.
Ben oui, oui. C'est pas faux, hein. Donc, alors après, au niveau de la structure, ben donc quelques éléments simplement, mais très rapides. Est-ce que c'est une langue latine? Oui, c'est un petit peu une langue latine au niveau du lexique, hein, puisque 93% des mots sont compris par un latin, 90% sont compris par un germanique, et 43% sont compris par un slave. Donc, par contre, pour ce qui est de la structure, eh bien, nous en avions parlé aussi, des trois sortes de langues. Il y avait des langues flexionnelles, dont les racines étaient instables, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y avait des langues agglutinantes dont les racines sont stables et ensuite on rajoute des terminaisons ou des préfixes, des suffixes, on peut faire des mots composés, mais la racine elle-même ne change pas. Hein, donc, et donc ça permet effectivement à partir d'une racine simple de générer beaucoup de mots différents. Quoi, voilà. Et puis on avait vu également que pour le chinois, par exemple, on a vu que le chinois est une langue isolante, en fait, qui pose des mots les uns à côté des autres. Ces mots qui peuvent être considérés aussi bien comme des affixes, des préfixes, des suffixes, etc., mais qui sont des mots à part entière, eh bien, l'espéranto fonctionne aussi de la même façon. Et donc, quelque part, un chinois, évidemment, aura plus de difficultés, puisqu'il devra intégrer un alphabet qui n'est pas... ce ne sont pas des pictogrammes, quoi. Il doit réellement intégrer un alphabet, mais en même temps, il peut considérer les racines comme des mots. Hein. Je me souviens d'un prélègue de Varinguin, au moment du centenaire de la Commune de Paris.
Oui. Hein.
Il y avait le congrès de Sat à Paris. Il avait fait un prélègue où il avait fait une causerie. Varinguin, il expliquait ça d'une façon très, 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 très documentée. Quoi. C'est vraiment très... Moi, j'avais 17 ans à l'époque, mais je veux dire, ça m'est vraiment resté. Quoi. Donc, l'espéranto, langue agglutinante et puis isolante en même temps. Quoi. Alors, effectivement, c'est bien une langue artificielle. Et les langues artificielles, sont assez... On peut de chance de devenir international pour des raisons qui sont à la fois... politique, militaire, etc. Donc l'espéranto, effectivement, rentre dans cette catégorie, mais elles ont aussi du mal à devenir des langues internationales à cause du problème simplement linguistique en tant que tel, quoi. Et c'est vrai que ça fonctionne pas, parce qu'en général, les grammaires sont trop rigides, hein, et inadapté, hein. on sort toujours à la même contradiction que définissait Pascal. Enfin, c'est moi qui maintenant vais parler de Pascal, qui suis athée, je parle de Pascal, mais enfin, peu importe, je veux dire, il parlait de l'esprit de finesse et de l'esprit de géométrie, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que l'espéranto, ça marche. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, il y a à la fois l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, quoi. Donc, parce qu'en fait, Zamenhof est à la fois un linguiste et un poète. C'était aussi un scientifique et un homme de bon sens. Hein. C'était un médecin rigoureux. Il était médecin, il était oculiste. Hein. Mm-hmm. Un médecin rigoureux et en même temps un praticien. Donc en fait, il avait tout le temps ces deux aspects. Et si on n'a qu'un seul de ces deux aspects, on ne réussit pas à fabriquer une langue. Quoi. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. Donc l'espéranto est la seule langue qui fonctionne, la seule langue internationale, artificielle, qui puisse fonctionner. Quoi. Alors, on avait parlé également du fundamento, qui posait quatre grands principes: la facilité d'apprentissage, la richesse de l'expression, parce qu'il ne faut pas que la facilité d'apprentissage soit aux dépens de la richesse de l'expression, bien entendu, ça c'est important. Et puis le caractère aussi international que possible du lexique et des structures. Bon. et puis la capacité également d'évoluer en fonction des progrès de la pensée, des techniques et des découvertes scientifiques, quoi. Voilà. Alors donc voilà un petit peu ce qu'on avait dit, quoi, par rapport. Alors au niveau du rayonnement, bah, donc on voit que par rapport au nombre relativement faible d'espérantistes, bah, il y a quand même beaucoup de bibliothèques et de musées. Hein, c'est quand même très, enfin. Par rapport à la dimension, enfin, c'est vraiment énorme. Quoi, par rapport à... Et donc, il y a également des œuvres originales, et ça, dès le départ, hein, on a eu des œuvres originales dans tous les domaines et dans tous les pays. Hein. C'est aussi la force de l'espéranto, c'est qu'il ne s'est pas répandu de manière internationale, parce qu'il n'y a pas des milliards de personnes qui se sont mis à le parler, mais par contre, tout de suite, il a séduit des gens dans tous les pays et de toutes les conditions sociales. Alors avant on peut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, ce sont surtout des bourgeois, des gens cultivés, des gens qui sont privilégiés, quoi, qui apprennent l'espéranto. Mais à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, et ben donc on a également des ouvriers qui se mettent à apprendre l'espéranto. Et d'ailleurs, bon, c'est également ça qui en fait permet de créer SAT, Sennatsiet, ça associe au tout le monde. Hein, donc voilà. Donc alors bon, au niveau du rayonnement, bon, on va pas insister plus que ça, mais en décembre 1952, donc là c'est déjà ça remonte très loin. Donc la direction générale de l'UNESCO donc évoquait une pétition de 15 450 780 signatures. Je ne sais pas compter une par une. Qui était favorable à l'usage de l'espéranto, et donc cet appui a été constant, et en 1985, la conférence générale de l'UNESCO appelait de nouveau les États adhérents à favoriser l'introduction d'un programme d'études concernant le problème linguistique avec l'enseignement de l'espéranto dans les écoles élémentaires et supérieures. Après, ce qu'il faudrait peut-être dire aussi par rapport à l'espéranto, c'est que il y a des raisons à la fois passives et des raisons actives de ne pas l'enseigner. Et je pense que les raisons actives, c'est qu'en fait, les gouvernements ne doivent pas énormément apprécier que les gens se comprennent, parce que s'ils se comprenaient, ils auraient peut-être moins d'intérêt à se taper sur la gueule les uns les autres, quoi. Je crois que c'est un petit peu ça qu'on peut dire, quoi. Donc voilà très rapidement ce qu'on peut dire donc, par rapport à l'espéranto. Est-ce que tu veux continuer sur Kersaudy, ou est-ce que nous continuons sur les rencontres de Saint-Imier?
Peut-être un peu sur Kersaudy encore.
Un peu sur Kersaudy, oui, d'accord.
Bon, effectivement, au début, hein, on va dire André, il raconte comment il l'a connu. Et il se rend compte tout de suite que Kersaudy a fait des études de langue très très tôt. Hein.
Oui.
Voilà. Alors, il dit par exemple... Dowien, par Olante pris Kersaudy, cher Pio, Tirastion, mi exis, que li, que Kersaudy, hein, li, commensis ian carrieron en la ministerio de la exterlandai aferroi, cae que li occupis postenoin en Moxvo, cae Belgrado, cae ancao en diversai cefurboi de la gvin continentoi. Poste li estis traducisto ce la unigintai nazioi. Exacte kiel Claude Piron, yes? Un cao parallele, ni dirou, alia alstara figuro de la esperantista mondo. Tiui funcioi, causis che Georges Kersaudy effectivigis traducoin cae revisioin tutte officiale ec de quindeco da lingvoi. Oui, effectivement. Donc, il dit que quand il a fait connaissance de Kersaudy, il a tout de suite su que Kersaudy avait commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères, et puis oui. Il a occupé des postes dans des grands lieux hein, importants, des capitales comme Moscou, Belgrade, mais et puis aussi et bien, dans divers villes. Des cinq continents, divers grandes villes des cinq continents. Après, eh bien, il a été traducteur aux Nations Unies, et exactement comme Claude Piron.
Oui.
Claude Piron, je crois qu'il a beaucoup travaillé à l'OMS aussi. En
oui, il est né en 1931, il est mort en 2008. Ils ont à peu près, ils ont à peu près le même âge tous les deux. Ils ont un parcours qui est assez, qui se ressemble pas mal. Hein.
Oui, exact. Oui. Alors, il dit Claude Piron, qui est une autre figure éminente du mouvement.
Oui, lui, il était l'Organisation mondiale pour la santé. C'est sur ça, les cinq continents.
L'OMS, hein. Oui. Donc, il dit que ses fonctions ont fait que Georges Kersaudy a produit des traductions, des révisions entièrement officielles à partir d'une cinquantaine de langues. Voilà. C'est puissant, hein, voilà. Donc, les racontis almic et liestis degvin yara kiam li elkovris, qui est la CEO des Esperanto, malfermas privilegiain aliron à la lingvoi des centra europo. Kai etch à la ne europai lingvoi. Mi exis, qui est de 1941 gis 1946, li ricevis en la Parisa Sorbono diplomoin pri rumana filologio, yes, pri germana lingvo ancao, pri usona literaturo kai civilizatio, kai ancao pri modernae scandinavae, yes, oui, scandinavae lingvoi kai literaturoi, yes, kai vazao cio tio nesuficius por satigi lian exter ordinara soifon de linguisticae scioi. Necessis che li visitadu dum la sama tempo la nazian lerneion de la vivantai orientai lingvoi.
Lingvois, in alcun.
Tie li ricevis diplomoin pri la lingvoi russa, si jus diris, hein, russa, rumana, hungara, kai, yes, multai alia lingvoi, kai fina, yes. Et effectivement, donc, il raconte que Georges Kersaudy lui a raconté avoir découvert à l'âge de 15 ans que la connaissance de l'espéranto ouvrait un accès privilégié aux langues d'Europe centrale et orientale, et même aux langues non européennes.
Oui, c'est en 1931, effectivement, il avait 15 ans ou 16 ans.
Oui, et donc, alors Georges André Cherpillot dit « J'ai appris que de 41 à 46, il avait obtenu à la Sorbonne des diplômes de philologie roumaine, c'est d'allemand, ça, de littérature, oui, de civilisation américaine, ainsi que de langue et littérature scandinave moderne. » Et comme tu l'as annoncé.
Oui, puisqu'il est en 1921, donc en 1936, il y a 15 ans. Quoi.
Avec beaucoup d'autres langues, des diplômes de russe, de roumain, de hongrois, de finnois, etc. Oui, voilà. Alors, Georges Kersaudy jouisse prix né ordinara memoro en la faco de la lingvoi. Alquiu faco li directis grande gan intereson. Li volonté diris super dec lingvoi, acquiri plia in lingvoi. Et ça, c'est très facile.
C'est un curie d'ec.
Voilà, oui. Alors, effectivement, il a obtenu des diplômes, etc., en masse, et il avait une mémoire peu ordinaire, hein, dans le domaine des langues, domaine pour lequel, eh bien, il éprouvait un immense intérêt. Il aimait dire au-dessus des 10 langues, il devient très facile d'en acquérir d'autres.
Oui, c'est de la rigolade, enfin. Il suffit d'en connaître 10, quoi.
Oui, il ne faut même pas regarder, quoi. Oui. Alors, visiblement, c'était vrai pour lui, mais si on songe que des centaines de milliers d'élèves de nos lycées ont passé une quantité incroyable d'heures à apprendre l'anglais et ne sont capables que d'en annoncer quelques phrases, on conviendra que cette assertion, n'est nullement généralisable et qu'elle prouve que Kersaudy avait une bosse des langues d'une taille, bosse des langues entre guillemets, d'une taille impressionnante. Ouais. Mmh. Effectivée.
Oui, c'est ça.
Donc, ça c'est lié à Ipuntoy, très très grave. Pris Georges Kersaudy, li Cherpillot d'Irastion, Mire Rencontigis con Georges Kersaudy en posta octobre en Le Mans, chez la Salono de la Libro. Trovigis buto di digital la propagando pri Esperanto, Kersaudy ne prevolis partopreni NG, por nia play granda joyo. Iam iu Japano proximi jazz por fari quelcain demandoin pri Esperanto, tui kersodi al parolas lin en japana lingvo. Kaj ĉi tie en le monde, estas en la regiono kie loĝas qui est l'autre jazz, André Cherpillot, d'où elle là. Elle la loco même, qui est Cherpillot, trop vite jazz. Ça, c'est où salon d'eau, oui.
Yes. Il y a des gens comme ça qui tout paraissent simple.
Elle la Yapana, bon, les parents là. Oui. Nous, il y a une qui dit qu'elle rigasse pris Esperanto, tout simple. Yes. Qui dit encore diras. Eh ben yes, car attendu char tiu brochureto estas de Cherpillo, car Cherpillo en cao li Cherpillo donc connaisse la
yes.
Pictogrammoi
yes. Est-ce que
yes, connaisse la pictogrammoi car en cao etch per la computilo taipas ilin.
Ah yes.
Yes.
Il y en qui connaisse la branding voilà. Kersoli n'est pas rôliste à Hebraïn Lingvo. Kaye Cherpillo dira sa phrase en la Hebraïn Lingvo. Kaye touille, quand même l'iné connaissent la Lingvo, ni touille capable à Strado qui connaît les diris.
Ah, yes, yes.
Cherpillo. Désolé, ça se verrait incroyable. Donc, Yann.
Bah yes, oui, yes, et là c'est qui rit une brochuretonne, yes, qui est ça,
yes,
très intéressant. Je trouve ça.
Esperanto France.
Yes, je trouve aussi l'île
de. Rue de la Cerise.
Yes, il dit. On va se souvenir de.
T'amènes langue sans frontières, brochuretonne. Autrement, mais si c'est chaud, il y a une pause encore.
Oh yes, là où il y a.
Yes,
il y a un certain Micaro. Un certain Micaro, là où il y a.
Ça s'intéresse à Galibro.
Est-ce tous encore quelqu'un numéro une HD?
Donc, Ebleni, nous n'y pouvons pas parler. Il y a été pris la congrès, pris la reine contige de Saint-Imier.
Yes, yes, yes. Donc, encore, en rapide, les paroles, finées des tiou brochureto, les Cherpillot paroles, pris la libro, qui est une.
Yes, yes, absolument, yes.
Longue sans frontières, yes. Mi vidas gin, en tao, mi aïe, au couloï, longue sans frontières, qui les. Dirou, détails, donnas détails, l'on, yes, pris. Pritio, do estas dica libro, yes, li mencias tion. Gi estas dica libro de 383 pagioi, por esti tre precisa.
Yes.
Eldonita en 2001, cae fare de eldonei autrement si presentis. Presentis tion. La unua parto estas inventaro de la nazioi de Europo, yes. Oni tie pritraktas la familioin de lingvoi. Neniu lingvo, ec se tre malgranda, estas preter la cita. Ĉu temas pri la Malta, la Moldava, la Soraba, au la Azera, cetere oni precizigas ke el la 320 milionoj loĝantoj de la Eŭropa Unio 20 milionoj parolas regionan lingvon alian ol la majoritata lingvo de la lando. Estas rimarkinde ke la vortoj de ĉiuj lingvoj estas skribitaj en sia aŭtenta skribo. Ne simple transcribitai yes. En latinan scribon. Voilà, donc il parle du livre, il dit c'est un gros livre, hein, 380 pages, 83, bon. Mm-hmm. Alors édité en 2001 par les éditions Autrement, ça tu l'as annoncé
oui,
tout à l'heure.
Oui.
Le sous-titre est à lui seul tout un programme, il dit, parce que des faits méconnus, des idées reçues, des aspects nouveaux, des problèmes et solutions, des méthodes d'apprentissage, des vocabulaires parallèles de 39 langues d'Europe.
C'est ça, vocabulaire parallèle de 39 langues d'Europe.
C'est colossal, ça, oui.
Absolument.
La première partie est un inventaire des nations d'Europe. Il y est traité des familles de langues.
Oui,
aucune langue, si petite soit-elle, n'est négligée.
Tout à fait.
Qu'il s'agisse du maltais, du moldave, du sorabe ou de l'azéri. Il est d'ailleurs précisé que sur les 340 millions de citoyens de l'Union européenne, 50 millions parlent une langue locale autre oui. que la langue majoritaire oui. de leur pays. Donc, il est à noter que tous les mots de toutes les langues citées sont écrits dans leur oui, écriture dans le vocabulaire, authentique.
Absolument.
Oui. Et non simplement transcrit en écriture latine.
Oui, dans les six alphabets, en fait, dans les six alphabets des langues européennes. Donc il y a un vocabulaire parallèle des sept langues latines et de l'espéranto, ensuite un vocabulaire parallèle des sept langues germaniques, donc anglais, allemand, néerlandais, suédois, etc. quoi. Et ensuite, on a un vocabulaire parallèle de 10 langues slaves, russe, ukrainien, biélorusse, polonais, tchèque, slovaque, bulgare, macédonien, serbo-croate, slovène. Et après, on a... et toujours, c'est écrit, effectivement, dans l'alphabet de la langue concernée, quoi. Et ensuite, il y a même un vocabulaire parallèle de 3 langues celtiques. Le breton, le gallois, l'irlandais. Hein, ah, donc, ouais. Ouais, donc, c'est quand même... Non, c'est magnifique, hein, ce qui est... Et ensuite, à la fin, donc, il y a un vocabulaire parallèle de 5 langues indo-européennes et du turc osmani. Donc, lituanien, letton, grec, albanais, arménien, turc. Donc,
Ah oui, c'est colossal. Hein. Oui,
c'est,
oui,
absolument, oui. C'est absolument colossal.
Oui, 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 oui.
Et donc, il y a un vocabulaire ensuite parallèle de 5 langues d'Europe non indo-européennes. Alors, il y a le hongrois, le finnois, l'estonien, le basque. Le géorgien, alors le géorgien, c'est un alphabet qui ressemble à rien du tout. Hein. Ouais, c'est comme l'arménien, hein. tu peux vraiment. Et à chaque fois, il le met donc dans l'alphabet. Enfin, c'est vraiment un livre qui est absolument magnifique. Quoi. Donc, je dis qu'il est magnifique, alors qu'en fait, je n'ai lu que des passages. Mais enfin, il faudra qu'un jour où j'aurai l'intelligence, la mémoire de Carcelli, ah oui, mais ça risque pas d'arriver. Il faudra que je me tape vraiment.
Il faut du temps. Hein. Ouais. Oui. Voilà, donc tout est très bien répertorié dans cette petite brochure de ouais, qui fait 20 pages, on va dire, voilà. Même pas, hein, même pas les 20 pages.
Oui,
voilà.
Oui, mais c'est vraiment André Charpillot, c'est un... Voilà. Il fait toujours un bon travail. Je sais pas si on a le temps de passer une musique avant ou qu'on passe directement, en fait, aux rencontres de Saint-Imier.
On peut passer une musique avant,
ouais. Oui, si tu veux.
Moi,
oui.
je peux aller passer une musique parce que on entend ma voix d'ici dans le studio. À la technique, c'est un peu plus difficile, mais à la technique, par contre, les appareils
vont... Peut-être que les auditeurs commencent à être saoulés de nous entendre parler aussi longuement, quoi.
Oui, ils sont morts. ils sont morts, là. Oui, c'est normal. Oui, oui. Voilà. Bah, écoute, je fais une dizaine de mètres, et puis je vais me retrouver là-bas.
Oui, pour un sportif comme toi, c'est pas... Ça voilà. Doit se faire assez rapidement.
Oui.
Ectimus mi, fracasita mia. promen, proponas vi, vivi kie nova pa, en bella venios. Comune estu ni en venios, ciuta cum jumbo, bella estas ja por vi. Cune en la amo op con vi, mia coro pulas, mi circau bracas vin. Comune, gioia plena e vivas ni, mes nocte cae mes tage, vin caressi volas mi. Fine, giù en ciela lit, ni du en accordo en bella religios.
Yes, yes, yes. Do bone, ni audis tiun canzonon de Glomp.
Yes, yes, tiula.
Yes, yes, Ralph Glomp. Mi esperas que mi retrofos la titolon, qui un di jus lanchis devas mi el urbo. Voilà.
Non.
Ouais, je dois partir de la ville. Ah. Voilà, c'est le titre que nous a chanté Ralph Glomp.
Et bien, c'est sage de Tsido.
Ah, yes. Ni ne auscultis la parole, yes, c'est de la canzone. Nous, la Rion. On a écouté l'air, mais on n'a pas écouté donc, le fond de la chanson. Hein. Devasmi el la urba. Voilà, je dois. Mm. Partir de la ville.
Mm-hmm. Voilà. Donc, ni yam multe parolis pri la communum de Paris, ok, nun eble ni devasiomete paroli pri gi, concerne la rencontigioi de la decna ou agista du dectria de Julio en Saint-Imier.
Yes, baldao.
Donc, baldao, facte, char ni povas diri que. La sanga semaino de la comunimo de Paris odo tio estas la momento qui am estas nova registar o tiem qui estas a registar o de tier qui possestos la registar o de Macmahon qui estas terro a registar et comprenable. Kai en 1871 do facte Karl Marx scribas la guerre civile en France,
hein. Yes.
Kai tu facte tu libro estas très favor à la communum kai estas quaso presque anarchiste libre cette poste verchaine li bedor as kai scribistien ministres kai qu'il dénove et d'irrevena c'est la internet si ou qu'il décidas tu restes en 1872, 1872, li decidas forigi de la internazio tiuj la persono kiuj tute ne plaĉas al li, ĉu ne? Tiu persono estas precipe ni diru Bakunin.
Bakunin.
Kaj ankaŭ James Guillaume.
Yes, yes, yes.
Kaj kompreneble Karl Marx estis tre aŭtoritateca persono, kaj li pensis ke la strategio, oni diru, la ke la devas esti tia, ke ĉiuj devas obei, ĉiuj devas obei, kaj estas do aŭtoritata sinteno. Do tiu kunveno, tiu kongreso de la unua internacio en Londono. Okay, en Londono, kaj en Londono do oni forigas do tiu oni forigas la ne aŭtoritatecajn personojn. Oni povas jam diri, ke fine de la komunumo estis tiu fama komite de salut publik kiu pro strategiaj kialoj diris do nun ni estas perdante la militon, kaj do ni devas havi tute tutte militistan sintenon, kaj do estis kiuj estis favoraj al tiu militista sinteno, kaj kiuj estis malfavoraj al tiu militista sinteno, do estis kiuj oni nomis la majoritato kaj la minoritato. La majoritato estis favoraj al aŭtoritata sinteno, kaj la minoritato estis malfavora al tiu. Do oni povas diri, ke jam fine de la komunumo, kion mi nomis la kverelo de la justuloj,
yes,
do tiu tiame do la oni jam vidas kio okazos poste kun la unua internacio, ĉar tiu unua internacio estas vere interesa, ĉar en Jesino estas blankistoj, estas prudonistoj, estas internaciistoj, estas jakobinistoj, estas do multaj diversaj skoloj, kiuj fakte grumblas unu kontraŭ la alia, sed tamen restas en la sama asocio.
Yes.
Que tio estas vere interesa. Sed ekde 1872, do, ni vidas que estas la fino de la unua internacio, aŭtoritata internacio, kaj fakte tiu unua internacio malaperos, ĉu ne? Malaperos, kaj renaskiĝos en 1889, kaj tiam estos la dua internacio, kaj la dua internacio estas kvazaŭ kiel diri stalinista internacio, mi iom troigas, sed estas tre aŭtoritata internacio.
Yes.
Do kiam Bakunin kaj James Guillaume kaj aliaj kompreneble estas forigitaj de tiu unua internacio, ili kompreneble malakceptas tion, kaj tiam ni ne plu estas en Londono, ni estas en Saint-Imier. Estas la ĵuras. Estas la ĵurasa parto de Svisio, ĉu ne? Kaj en Saint-Imier do konstruiĝas tiu internacio neaŭtoritata. Tiam, jes. Do jen kion ni povas diri. Do je unu flanko, por paroli rapide, kompreneble, je unu flanko Londono, kaj je alia flanko Saint-Imier. Kaj nun kompreneble ni parolas pri Saint-Imier. Ĉar ni partoprenos en Saint-Imier, kompreneble ni havos budon kiu parolos pri Esperanto, evidente, sed eble ni povos ankaŭ aludi pri faktoj kiuj koncernas la naskiĝon de tiu unua internacio, kaj se tio interesas, se ni vidos, se ni havas respondon por tio, mi antaŭvidas kelkajn prelegojn, kiujn ni povus fari. Mi diru, Ĉu ne?
Jes, jes.
Do ni povus prezenti la historion de la unua internacio ĝis ĝis tiu periodo de 1872, kaj tio estos sufiĉe konstrua afero, mi opinias. Ni povus ankaŭ paroli, do estus dua prelego, ni povus paroli pri la origino de la komunumo, kaj en la origino de la kaj en la kaj kontraŭ la komunumo estis kvar kontraŭuloj, oni povas diri, estis la kiuj estis favoraj al la reĝo. Ĉu estis favoraj al la reĝo pro la fakto ke ili amegis dion, ĉu ne? Ĉu favoraj al la reĝo pro tio ke ili estas en kapitalista sinteno? Ĉu estas respublikanoj kiuj estas kiel diri reakciaj republikanoj, kaj tiuj reakciaj republikanoj estas sufiĉe proksimaj de tiuj registoj kiuj de tiuj registoj favoraj, ĉu ne, kiu oni nomas orleanista.
Jes.
Mi opinias ke hodiaŭ ni povus diri ke tiuj reĝoj, ĉu ne, kiuj estas favoraj al kapitalismo, do estas kiuj estas orleanistoj, oni povas diri ke Macron je certa vidpunkto estas orleanisto, ĉu ne, estas en la sama direkto kiel tia, ne kiel Charlotte, sed kiel tia, jes, kaj estis ankaŭ la bonapartistoj, kiuj estis favoraj al la armeo, kaj oni vidas ke dum tiu periodo kiel diri la kiam oni vidas ke registaro, mi devas pripensi pri tio hodiaŭ, kiam registaro sentas ke ĝi falos,
yes,
tiam kion ni faras, kion ni proponas, ni proponas militon,
kaj
ni povas havi tiun malkvietiĝon nun, ĉu ne? Do eble ni povus paroli pri tiuj originoj de la komunumo kaj montri tiuj kvar skoloj, ni povus diri kaj ekde 1830 ĝis 1870, ĉu ne? En kiel 1830, ĉar 1830 estas la momento kiam oni kapablas dankel la vapormaŝino transporti tre malproksime varojn, kaj tio estas la kapitalista sinteno, estas ekde 1830. Ni povus ankaŭ paroli fari prelegon pri la virinoj, do eble ni faros ĉiujn prelegon, ĉu sen mi faras proponon nu pri la virinoj kaj pri la libero de la virinoj en tiu momento de la komunumo de Parizo. Kaj estas interesa, ĉar tiam oni povas konstati ke la virinoj akiras pli por siaj rajtoj en tiu periodo kiam ili ne havis la voĉdonrajto, ol antaŭe kaj poste, ĉu ne? Kaj do tio la fakto kiel diri batali por siaj rajtoj estas multe pli efika ol voĉdoni, tio estas evidenta afero. Ni povus ankaŭ paroli pri la kluboj, ĉu ne?
Yes.
La kluboj estas interesa, ĉar estas rekta demokratio, ĉu ne? Kaj ni povus ankaŭ paroli pri tiu fama kverelo de la justuloj, kion mi nomas kverelo de la justuloj, kiu fakte montras la vere malsameco inter kiel diri inter aŭtoritatuloj kaj neaŭtoritatuloj. Jen kion ni povus fari. Parolante pri la kluboj, jes, ni havas ankoraŭ kelkaj sekundoj. Parolante pri la kluboj estas interesa montri ke en tiu momento, dum oni scias ke nun en la konstitucio de 1950 estas artikolo kiu estas artikolo 12, kiu montras ke la kiu diras ke la la mandato la missi la recta mandato estas nula dum la komunumo ili ĉiam voĉdonis, sed ili voĉdonis por io, ĉar la politikuloj, on peut dire, Yes. Mm-hmm. La politique couleur. Au niveau de jeunes sport, il a mission, il devait honorer une mission, qui est l'idée honorer une mission, tiens, c'est tout simple et fort, j'ai dit. Donc, bon, je vais te dire un petit peu en français donc, yes. ce qu'on a dit, donc, c'est que nous avons beaucoup parlé de la Commune de Paris, parce qu'en fait, les rencontres du 19 au 23 juillet seront des rencontres qui sont liées à la naissance de l'internationale anti-autoritaire. Hein. Oui. Cette internationale anti-autoritaire, en fait, naît principalement, enfin, on a déjà parlé la dernière fois, parce qu'on a assez... On a lu un texte assez long, hein. Donc enfin le texte oui, en fait de la naissance de cette
la petite brochure,
la ouais. brochure, cette première internationale, ouais. Et donc en fait on a vu que on a d'un côté Londres et de l'autre côté disons la Suisse jurassienne quoi. Hein.
Exact.
Donc, oui. Alors à Londres on a plutôt la première internationale dans ce cas-là d'autoritaire. Et par contre, les anti-autoritaires sont plutôt du côté du Jura suisse, et donc en l'occurrence de Saint-Imier, puisque c'est à Saint-Imier que naît justement cette première internationale, cette internationale, pas cette première, c'est toujours la même, hein. C'est l'internationale anti-autoritaire, quoi, voilà.
C'est riche quand même en congrès, quoi. Ouais.
Et c'est riche en congrès, oui, c'est vraiment c'est très très intéressant, quoi. Donc,
oui, oui.
Donc Londres et Saint-Imier, on va dire, pour aller un petit peu vite. Hein, voilà,
oui.
Donc Londres, Marx et Engels, hein, et puis Saint-Imier, donc, on a des figures importantes comme enfin, il y en a beaucoup, hein, mais je veux dire, on va citer Bakounine et James Guillaume. Quoi.
Donc
Bakounine et James Guillaume ayant été excommuniés, ayant été virés par Marx de la première internationale, voilà. Donc je proposais une suite peut-être de quelques conférences, c'est beaucoup dire, de causeries,
hein, oui.
qui permettraient en fait d'avoir des dialogues et d'avoir des échanges, quoi. Donc l'histoire de la première internationale jusqu'en 1871, donc cette première internationale, voilà, donc... Il y a quelque chose qui m'énerve pas mal aussi, c'est qu'on a tendance souvent à attribuer la première internationale à Marx, comme c'était Marx qui avait fondé la première internationale. Alors, quand on voit les faits tels qu'ils sont, il y avait à l'époque une certaine haine des clercs. Je vais très très vite, hein, mais je veux dire, cette haine des clercs était liée au fait que les républicains réactionnaires avaient trahi en fait le peuple en 1848. Et donc, au moment de la première internationale, lorsqu'elle naît en 1864, il n'est absolument pas question de trouver des bourgeois ou des intellectuels dans la première internationale. Mmh. On demande clairement, mais fortement à Marx et à Engels qui essayent de s'introduire dans la première internationale, on leur demande clairement de fermer leur gueule, quoi. C'est très très clair par rapport à ça, quoi. Et donc ils sont obligés de se taire lors des premiers congrès de l'internationale. Donc dire que la première internationale est inaugurée par Karl Marx et Engels, c'est un mensonge absolu, quoi. La première internationale est inaugurée essentiellement par des ouvriers, quoi. Voilà. Donc, après, on pourra peut-être un jour citer le livre de Sarah Al-Matari qui écrit La haine des clercs. Hein. Un jour, il faudra qu'on en parle ici parce que c'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Voilà. Donc, on pourrait parler de l'histoire de cette première internationale. Disons que dans les rencontres de Saint-Imier, j'entends qu'il est question de parler de choses actuelles, etc. Mais je veux dire, quand on parle du passé, c'est toujours en relation avec des choses intellectuelles. Donc il n'y a pas les choses anciennes et les choses actuelles. Je veux dire, on est toujours on parle toujours des mêmes choses, en fait. Et l'histoire, en fait, alimente le présent, quoi. Je pensais qu'on pouvait parler aussi des origines de la Commune, parce que ça permettait aussi de parler des quatre grands courants qui existent donc de 1830 à 1871. Donc on va dire les républicains, les quatre grands courants réactionnaires, donc les républicains réactionnaires, ils en font partie, hein. Donc il y a les bourgeois royalistes. Les royalistes qui eux sont des royalistes de type Charles X, quoi, voilà, et puis également les bonapartistes. Et ce qui est intéressant quand même d'observer, bon là j'en ai un peu plus, c'est qu'en fait à chaque fois que un qu'un courant politique devient majoritaire, il te dit qu'en fait c'est la fin de l'histoire, quoi. Il est en train de nous expliquer que le capitalisme est la fin de l'histoire, quoi. Il n'y a plus rien de possible. Ouais, donc c'est comme ça, il n'y a rien d'autre de possible. Mais les royalistes aussi à l'époque disaient que la royauté c'était la fin de l'histoire, qu'il était impossible qu'il y ait un autre gouvernement qu'un gouvernement royaliste. Une troisième possibilité de causerie serait de parler des femmes et donc des femmes et de ce qu'elles font pendant les communes et de montrer que leur action concrète pendant les communes en fait leur permet d'obtenir davantage pour leurs droits en quelques semaines que ce qu'elles vont obtenir en plusieurs années avant et après.
Exact.
Donc on peut parler de quelques femmes y compris avant la commune et après la commune, donc, je pense particulier à la grand-mère de Gauguin qui était Flora Tristan.
Et dont
Marx a quand même dû pas mal s'inspirer pour écrire son manifeste du Parti communiste. Mais enfin, le problème de Marx, c'est que lui, il ne citait jamais les gens à qui il était redevable, quoi. C'est un peu énervant aussi, quoi. Donc, on peut en parler. On pourra parler également des clubs, pour parler de ce qui se passe dans les clubs et dans cette démocratie directe. D'ailleurs, que Marx appelait les gens qui étaient dans les clubs, il les appelait les braillards.
Donc, dans
ces clubs, en fait, il y avait une démocratie directe, et quand on élisait quelqu'un, la personne était élue pour une mission, pour un rôle déterminé, et quand elle ne remplissait pas cet rôle, il était révoqué. Donc, il y avait un mandat qui était à la fois impératif et révocable. Et donc, dans l'article 27 de notre Constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. Notre constitution de 1958, ça veut dire que vraiment on est sur... Ça fait vraiment réfléchir, parce que personne ne parle de cet article-là, mais je veux dire, il est quand même fondamental.
Il est primordial.
Un jour on fera une sixième constitution, il serait quand même bien de le faire disparaître et de considérer que le mandat, il doit être impératif et les élus doivent être révocables.
Marc, on va redonner l'antenne, alors on va laisser la place à Yannick.
Et nous,
on vous donne rendez-vous là-bas,
à Saint-Imier.
Relancer
l'appel quand même que les gens qui sont espérantistes pourront peut-être être employés pour faire des traductions des...
Oui, pourquoi pas. J'ai vu sur Internet qu'il y a des gens qui proposent des places pour aller à Saint-Imier. Il y a des petites caravanes en voiture qui se passent, il y a des liaisons.
La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, mais par contre, l'autre semaine après, on aura une émission, on aura beaucoup de choses à dire.
Fartubone.
Pardon, Kemiestis, Iomete Longa.
Je laisse la place au-delà du RL. Voilà, notre ami Yannick est dans les studios déjà. Et on va passer un tout petit morceau. C'est parti.
Gacciolo senti arrundiris mi agios milon Havis nec domon li, havis nec familion Diris nascigis mi dum la fulmotondro Diris nascigis mi post voyaggio tut monda La 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 Disli pricini, Japani, Americo. Kaj la nomoj parfumaj de inoj afrikaj. Kaj gaĉolo al ĉiuj rakontadis pli. Historion pri landoj kiuj ne vidis li. La la la. La la la. Kaj gaĉolo jen diris septembre al homoj. Nu mi devas prepari vojaĝon denove. Certas mi estas ie en mondolando ia. Mi nur sonĝis, sed vidis mi ĝin veneniam. La la la. La la la. Tiu lando estas inter la mar kaj montaro. Uno dode vimberti mian cae castano. Tie bluvas la vento iau tantra montano. Cae arus cum la ordanzas mano en mano. La la la. La la la. Tiu lando estas inter la mar cae montano. Un odor de vimberti, mian, cae castano.